Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Après le temps de l'élection, le temps de la mise en place. Le gouvernement est stabilisé, les nouveaux députés arrivent progressivement à l'Assemblée. Demain, c'est l'ouverture de la 15e législature. Et à peine le temps de s'installer au Palais Bourbon qu'il va peut-être falloir déménager à Versailles. Le président de la République envisage d'y réunir lundi prochain l'ensemble des parlementaires à la veille du discours de politique générale de son Premier ministre. D'ici là, le projet de loi d'habilitation à réformer le Code du travail par ordonnance aura été présenté en Conseil des ministres. Emmanuel Macron a fait de cette réforme un de ses objectifs prioritaires, prioritaires sur le fond mais aussi sur la forme. Il s'agit de montrer que le nouveau pouvoir agit et qu'il agit vite. Il avait d'ailleurs annoncé la couleur lorsqu'il était candidat. « Nous ferons, disait-il, de la procédure d'urgence, la procédure par défaut d'examen des textes législatifs afin d'accélérer le travail parlementaire. » Alors cette idée de faire de la rapidité une condition de l'efficacité n'est ni nouvelle ni absurde. Exercer le pouvoir, c'est aussi être capable de trancher et de le faire vite. Mais dans un temps où les principales urgences politiques portent sur des questions de long terme, n'y a-t-il pas un risque de se laisser imposer un tel rythme, une telle accélération? Le politique réduit-il le temps de la politique? C'est la question que nous allons poser ce soir à nos trois invités. Céline Spector, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Vous venez de publier aux presses universitaires de Bordeaux « Rousseau et la critique de l'économie politique ». Pour discuter avec vous, François Hartog, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion de présentisme. Vous avez publié cette année chez Gallimard « La nation, la religion, l'avenir » sur les traces d'Ernest Renan. Et puis notre troisième invité est en duplex des studios de France Bleu à Lyon. Il s'agit d'Arnaud Père. Bonsoir.
Renaud Père, bonsoir.
Renaud Père, pardonnez-moi. Renaud Père, vous dirigez l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous organisez un colloque à l'IEP de Lyon. Ce sera la fin de l'année, du 30 novembre au 1er décembre. Temporalité politique. Et je renvoie vers un ouvrage que vous avez coécrit avec Gilles Paulet à la découverte, c'était en 2013, Socio-histoire de l'action publique. Alors je voudrais qu'on démarre avec cette actualité politique de la semaine et notamment cette loi d'habilitation à faire des lois par ordonnance sur la question du code du travail. Est-ce qu'on peut y voir une forme de logique pour un pouvoir, pour un exécutif qui se mette en place, qui a besoin d'agir vite à la fois pour donner dégage à sa majorité, qu'il est bien en place, et par ailleurs aussi dans l'idée que plus on agit vite, plus les mesures vont se mettre en place et plus elles vont montrer a priori leur efficacité. Céline Spector.
Oui, alors évidemment il y a une tentation, la tentation de l'exécutif de vouloir imposer un tempo, une cadence politique, c'est-à-dire de faire vite, se montrer efficace, montrer qu'on n'est pas dans la politique politicienne et les délibérations sans fin. Mais enfin, il faut quand même dire que la démocratie c'est d'abord la délibération. Et qu'il faut un temps et un temps irréductible pour la délibération politique. C'est-à-dire que la tentation, évidemment, de passer par ordonnance ou d'utiliser le 49-3 est évidemment une tentation autoritaire, même si, évidemment, elle ne nous fait pas basculer directement dans un type de régime autoritaire.
Mais on peut vous rétorquer que le temps de la délibération, il a eu lieu et il a été long. Ça a été celui de cette campagne présidentielle.
Alors non, il ne faut surtout pas confondre le temps de la préparation, le temps de la conquête du pouvoir et le temps de l'exercice du pouvoir. Et précisément, les qualités ne sont pas forcément les mêmes. Emmanuel Macron est une sorte de prince machiavélien. Il a su saisir le kairos, le moment opportun pour conquérir le pouvoir. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes qualités qui doivent être mises en œuvre une fois que le pouvoir est conquis. Et en particulier dans le rapport entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Puisque précisément, le temps démocratique, c'est pas seulement le temps de la consultation et de l'apparence médiatique qu'on veut donner à cette consultation. C'est aussi le temps de la contestation qui est déjà intériorisée dans les débats parlementaires. Donc je crois qu'il faut être très vigilant.
François Hartog, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et est-ce qu'on pourrait pas rétorquer là aussi que Emmanuel Macron et le gouvernement risqueraient de se voir opposer le reproche inverse s'ils n'agissaient pas vite, disant bah voilà, à quoi sert ce nouveau gouvernement si c'est pour prendre à nouveau beaucoup de temps pour élaborer les prochaines lois.
Oui, vous venez de développer l'argument qu'ils ne manqueront pas de développer si on leur faisait ce type d'objection. Et c'est un débat dont on peut très bien ne pas sortir, puisque d'un côté, vous avez en effet l'idée que la délibération, il y a un temps de la délibération, il y a un temps pour la délibération, et que il est consubstantiel à ce que nous appelons démocratie. Bon. Et accélérer les procédures de la prise de décision, c'est Alors oui, on peut dire, on pourrait très bien voter en faisant par Internet. Ils pourraient tous voter par Internet et le problème serait réglé. Oui, mais le vote est une chose, la délibération en est une autre, et ce temps de la délibération, je crois qu'il faut y veiller. Et puis vous avez cette discordance qui existe, justement, dont qu'on voit se manifester, entre d'un côté le Parlement, qui lui est dans ce temps qui a sa durée propre, qui a son rythme propre, et puis le temps de l'exécutif qui lui veut aller vite. Et à ce moment-là, le risque, c'est de voir, et c'est un risque tout à fait avéré, c'est-à-dire le Parlement, en réalité, c'est une perte de temps. Une discussion au Parlement, c'est de l'obstruction. Une réflexion qui se développe, c'est retarder ces mesures dont nous avons urgemment besoin. Et le mot qui, au fond, réunit tout cela et qui commande tout cela, c'est celui d'urgence. Et nous sommes, bien sûr, dans un moment, dans un temps qui est celui dominé par l'urgence. Et le politique lui-même, le politique, les hommes politiques, les femmes politiques, obéissent à l'urgence. Et je me souviens de cette formule qu'avait employée Sarkozy. Ne se contenter que de l'urgence, disait-il dans un discours, c'est déjà un plein temps.
Renaud Père, sur cette question de l'urgence qui s'impose et aussi finalement sur le constat que le temps de la délibération aujourd'hui semble être perçu par un certain nombre de politiques, notamment presque comme un temps de l'inaction.
Il y a deux remarques, me semble-t-il, à faire. D'abord, rien de nouveau dans tout cela. C'est-à-dire que, évidemment, l'ordonnance et le fait de décider avant l'été du début de la première année du mandat rappellent des choses que nous avons déjà vues dans les mandats précédents. Et donc, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que nous ne sommes pas véritablement dans un phénomène entièrement nouveau. La deuxième remarque renvoie effectivement à cette distinction entre l'exécutif et le délibératif. Et en même temps, n'oublions pas que le président, même s'il est désormais élu et qu'il incarne le pouvoir exécutif, reste un politique, un acteur politique. Et c'est là qu'on commence à toucher du doigt un des thèmes de notre débat, le temps ou les temporalités politiques. Agir en politique, c'est être maître du temps. C'est parvenir à synchroniser une diversité de temporalités, la temporalité de l'élection et de la campagne permanente, on y reviendra peut-être. C'est aussi le temps des médias et de l'espace public plus largement. C'est enfin le temps de l'action publique. Et cette capacité à être le maître du temps est véritablement une des propriétés premières de l'homme ou de la femme qui détient le pouvoir.
Et alors est-ce que justement vous considérez que c'est une propriété première de celui qui est aujourd'hui à l'Élysée, en l'occurrence Emmanuel Macron, dont on voit bien quand même a priori qu'il essaie d'exercer cette maîtrise sur le temps médiatique en limitant sa prise de parole, en choisissant les moments où il a envie de s'exprimer, et puis aussi en donnant un peu un rythme à ses apparitions, notamment la façon dont il est arrivé jusqu'à la pyramide du Louvre, la façon dont il a le temps qu'il a pris pour gravir l'escalier de l'Élysée, puis en même temps cette volonté d'agir et de prendre des décisions rapides. Renaud Père.
Oui, pour le premier aspect de votre question, il est fort probable qu'il ait tiré tous les enseignements des deux premiers réels quinquennats que nous avons connus dans notre République, c'est-à-dire celui de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande, étant entendu que le quinquennat de Jacques Chirac était un deuxième mandat. Donc, et là, il voit très bien à quel point ces présidents se sont confondus avec des premiers ministres et ont confondu leur calendrier et leur agenda avec celui notamment de l'opinion publique. Et on voit bien qu'ils cherchent à prendre des distances tout en agissant. Et c'est là le deuxième aspect de votre question, car il doit réformer. Il doit réformer, en tout cas, il a annoncé qu'il réformerait. Et donc, il cherche explicitement à faire adopter toute une série de mesures le plus rapidement possible. Mais là encore, je ne pointe pas de différence avec ses prédécesseurs, puisqu'il s'agit tout simplement de réformer quand c'est encore possible et quand c'est assez éloigné aussi des échéances électorales. Or là, il sort d'élections législatives qui ont été victorieuses. Il a une forme d'état de grâce, même s'il lui-même l'avait mis à distance, avait mis à distance cette notion, mais il bénéficie quand même d'une forme de légitimité extrêmement importante par rapport à son prédécesseur, même si le travail est, même si c'était relativement facile. Et précisément, il repose sur ce que d'autres avaient appelé, et d'ailleurs certains de ses prédécesseurs, les 100 jours, d'une certaine manière, en reprenant
voilà,
là,
les fameux 100 jours, voilà, qui reviennent très, très régulièrement. Sur cette idée que quand on exerce le pouvoir, maîtriser le temps, c'est une donnée essentielle de l'exercice du pouvoir, Céline Spector.
Oui, je suis absolument d'accord avec cette idée. Je vais me permettre de citer celui qui est à mes yeux le premier grand philosophe qui a pensé la démocratie moderne dans son rapport avec la démocratie antique, c'est Montesquieu dans L'Esprit des Lois, qui lorsqu'il évoque la démocratie dit la chose suivante, hein, je cite, il faut que les affaires aillent et qu'elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite, mais le peuple a toujours trop d'action ou trop peu. Et je crois que par là même est dessiné hein, ce qui est une sorte d'espace avec deux écueils. Hein. D'un côté, vouloir une accélération du temps politique, un rythme qui soit en quelque sorte un rythme de l'action fébrile, effrénée, hein, qui essaye de démontrer que l'on exerce le pouvoir par tous les moyens. Et de l'autre, une temporalité qui serait trop lente et qui serait telle que finalement nul ne pourrait bénéficier des effets de l'action politique. Et je crois qu'on a là, disons, l'indice d'un écart qui va se creuser, hein, à mon avis, dans nos démocraties, entre d'un côté la logique de l'exécutif politique, qui veut être une logique de l'urgence, hein, de plus en plus en raison du temps médiatique, mais aussi de la concordance avec le temps économique, hein, celui des contraintes du capitalisme, hein, pour les nommer, et d'autre part, le temps administratif. Le temps politique et le temps administratif ne concordent pas, pas plus qu'ils ne concordent avec le temps médiatique. Donc le maître des horloges, c'est celui qui sait apprécier, en effet, la concordance possible entre ces trois temporalités. C'est-à-dire pas seulement le temps de sa propre réélection, qui est toujours à l'horizon, hein, évidemment, mais aussi le temps d'une action politique qui doit pouvoir être exécutée et produire des effets avant de revenir devant le suffrage universel. Et c'est ça la difficulté majeure des mandats courts dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas de la démocratie en général, par rapport à des formes qui ont, disons, des formes politiques qui bénéficient d'un temps long, comme la monarchie par exemple. Hein. C'est-à-dire que la démocratie est toujours confrontée au fait que les effets politiques de l'action sont en quelque sorte imprévisibles et peuvent surtout prendre beaucoup de temps.
Cette question du temps politique, François Hartog, c'est une question qui est typiquement une question de la démocratie, c'est-à-dire dans d'autres types de régimes, elle ne se pose pas de la même manière, voire elle ne se pose peut-être pas du tout.
Si, tous les régimes ont rencontré, c'est le problème du temps. Ils l'ont résolu ou essayé de le résoudre de différentes façons. Mais avant de répondre à votre question, je pense qu'il y a autant qui viennent d'être énoncés, les différents temps, il faut aussi ajouter le temps juridique ou le temps judiciaire, avec lequel nos régimes ont affaire, et même affaire de manière très précise, aujourd'hui. Bon, qui introduit encore une temporalité qui n'est pas la temporalité du politique, qui n'est pas la temporalité économique évidemment, mais qui vient interférer ou qui a son propre temps et qui les juge devant eux-mêmes savoir où est-ce, qu'est-ce qu'ils font de ce temps juridique. Est-ce qu'ils essayent eux aussi de l'accélérer ou pas? Est-ce qu'ils doivent eux aussi aller toujours plus vite pour répondre le lendemain matin à telle ou telle question qui a été posée ou telle dénonciation qui est arrivée. Bon, en ce qui concerne le temps politique proprement, je crois qu'il s'est dégagé le temps politique avec le temps moderne. Nous avons ce concept de temps moderne s'est installé, c'est-à-dire un temps qui est porté par le progrès et qui est ouvert en direction d'un futur qui est un horizon vers lequel il faut aller aussi de plus en plus vite, et c'est toute la problématique de l'accélération des sociétés modernes. Eh bien, le politique s'est inscrit, la politique moderne s'est inscrite dans ce temps-là, et l'homme politique était celui qui pouvait, à partir de son inscription dans ce temps, avoir la vision politique et indiquer à ceux qu'il avait élus le chemin qu'il fallait suivre, les guider dans cette voie en leur disant « moi je sais où nous allons et je vous dis qu'il faut y aller, qu'il faut y aller très vite
bon. ». Ça a disparu.
Et ça, officiellement non. C'est-à-dire que nous restons dans cette construction, mais effectivement, oui. Ce rapport au temps, ce temps moderne, ce que moi j'appelle un régime moderne d'historicité, eh bien, ça ne fonctionne plus. Et nous avons vu, depuis les 40 ans, un temps qui est de plus en plus dominé par la seule catégorie présent. Et du même coup, la politique au sens moderne, cette politique portée vers le progrès, l'amélioration, eh bien, la révolution, cette politique elle-même perd ses repères. Et l'homme politique, il continue à être investi de cette mission, de cette fonction, mais il n'a plus capacité de l'exercer telle qu'il, de la façon qui était la sienne il y a 50 ans.
Il y a quand même un paradoxe, dans le, non pas que je conteste hein, du tout là, ce que vous dites François Hartog, mais un paradoxe dans le fait qu'aujourd'hui on a quand même l'impression, bah alors c'est peut-être aussi une impression du moment présent, que les grands enjeux politiques aujourd'hui ne sont pas des enjeux du temps présent justement, mais des enjeux d'un temps long. Je pense par exemple à la question, aux questions environnementales, aux questions climatiques. Tous les politiques aujourd'hui adhèrent à cette idée qu'il y a une urgence à traiter de cette question qui est une question du temps long. Comment se fait-il que le lien ne se fasse pas dans la façon d'exercer, de faire de la politique, Céline Spector ?
Oui, mais vous avez énoncé vous-même le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont des problèmes de temps long, comme l'urgence écologique, mais en même temps ils se présentent comme des urgences. Mais on sait bien que pour les traiter, il faut accepter un certain nombre de mesures souvent impopulaires, c'est-à-dire par exemple, il y aura des fermetures d'usines, il y aura un certain nombre de choses, et les élus hein, qui veulent être réélus n'acceptent pas disons les conséquences impopulaires des mesures qui sont favorables à l'écologie.
Et ça crée une distorsion. Donc on supprime les élections comme ça permet de plus avoir ces échéances en tête.
Il y a une question philosophie politique majeure qui est de savoir si on traite mieux des questions écologiques en démocratie ou dans les régimes autoritaires. Et c'est une question réelle. C'est-à-dire qu'il faut un certain courage politique, hein, celui qu'avait eu Obama, bien sûr. Il faut une opinion publique hein, qui soit déjà un petit peu favorable, bien sûr. À savoir, il faut être capable, en tout cas, de proposer, disons, quelque chose, un discours assez construit, assez enthousiasmant, assez pédagogique aussi, pour faire accepter un certain nombre de mesures qui sont nécessairement impopulaires dès lors qu'il y aura éventuellement élévation du coût de l'énergie, etc. etc. Donc voilà, je crois que c'est un paradoxe de la démocratie.
Alors qu'en pensez François Hartog et Renaud Père, François Hartog ?
Bien, oui, on est justement dans une de ces discordances majeures des temporalités, bon, qui est quelque chose de nouveau. En effet, dans ce présent présentiste, il y a maintenant un horizon qui est celui d'une menace qui s'avance vers nous, que nous avons mise en marche et qui s'avance vers nous, et qui est cette menace du réchauffement climatique, pour dire d'un mot. Bon. Et cette menace-là, pour la saisir dans toute sa complexité, il faut du temps. Et donc on ne peut pas, c'est précisément le genre de sujet sur lequel vous ne pouvez pas décider en un quart d'heure. Et ça ne se règle pas avec 3 tweets, comme semble le penser Donald Trump. Bon. Et en même temps, il faut essayer d'aller vite. Bon. Alors comment mettre ensemble ces impératifs qui se télescopent, nous ne savons pas faire. Et dernier point, juste, si nous prenons le cas des déchets nucléaires, bon, qui est un problème majeur, nous le savons. Nous ne savons pas faire, parce que nous avons affaire à des durées qui sont tellement longues, puisque c'est des choses qui s'étendent sur des centaines de milliers d'années ou plus encore. Comment intégrer dans nos façons de raisonner des choses qui ne sont pas encore advenues, mais dont on sait néanmoins qu'elles sont pratiquement déjà jouées? Et ça, l'humanité n'a jamais été confrontée à ce type de problème. On sait à peu près régler un certain nombre de problèmes en ce qui concerne le passé, même si on ne sait pas régler tout en ce qui concerne le passé, mais on a un peu une idée. En ce qui concerne ces temporalités nouvelles, on ne sait pas faire, et nos modèles de calcul de risque, par exemple, ne savent pas faire ces choses-là.
Et puis il y a peut-être aussi une difficulté intellectuelle à se dire qu'on va prendre des décisions dont on ne verra sans doute pas les effets, parce qu'elles sont tellement à long terme, même si moi, alors ça m'évoque une image, je ne sais pas si c'est très pertinent ou pas, mais je ne sais pas, des gens qui plantaient des arbres, par exemple, et qui ne vous les voyaient pas totalement vivants, disons, de leur vivant, justement. Renaud Père, qu'est-ce que vous pensez de la discussion, là où nous en sommes pour l'instant ?
Il me semble qu'on peut aussi ajouter un autre paradoxe en lien avec les paradoxes qui ont pu être déjà évoqués. C'est ce paradoxe du métier de l'élu et de sa temporalité. C'est-à-dire qu'on l'a déjà dit, la démocratie est caractérisée par l'incertitude. Et mieux encore, on pourrait dire que théoriquement et même juridiquement, le mandat est provisoire. Or, nous sommes, et c'est aussi ça la modernité du temps, de la temporalité politique, nous sommes face à une forme de professionnalisation politique, dont l'effet est précisément d'assurer au contraire la continuité, d'inscrire les élus dans la longue durée et de veiller justement à réduire cette incertitude. Alors bien sûr, vous pourriez me dire que nous sommes là dans une Assemblée nationale qui est marquée par 75% de nouveaux venus, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un processus à l'œuvre depuis des décennies, voire des siècles, qui est bien celui de la professionnalisation politique. Et donc une nouvelle forme de temporalité politique qui vise précisément à réduire l'incertitude. Puis j'ajoute...
Sauf qu'aujourd'hui, il me semble, pardonnez-moi Renaud Père, mais qu'on est plutôt dans l'idée inverse, c'est-à-dire de vouloir, par exemple, limiter le cumul des mandats dans le temps pour éviter cette professionnalisation.
Alors, limiter le cumul des mandats dans le temps, ça reste à prouver. C'est-à-dire limiter le cumul, certes, mais limiter l'accumulation des mandats dans le temps, ça n'est pas encore, à l'exception de quelques mandats, ça n'est pas tout à fait ce que nous mettons en œuvre en France, contrairement à d'autres pays. Mais limiter le cumul ne veut pas dire la fin de la professionnalisation politique. Ça modifie les formes de la professionnalisation, mais ça ne limite pas la professionnalisation. Et par ailleurs, il y a bien une accumulation de mandats dans le temps. Puis il y a une autre question que Céline Spector a posée avec force, qui est cette question que bien des philosophes politiques ont posée et que des politistes aussi posent. C'est cette question un peu dangereuse. Gouverne-t-on mieux en démocratie ou dans des régimes autoritaires ? Et c'est bien cette question précisément de l'incertitude de la démocratie qui pèserait sur la bonne conduite de l'action publique, sur le lien aussi entre les élus et les acteurs administratifs, qui a le pouvoir, qui dispose du temps pour agir. Et c'est une question qui est extrêmement intéressante.
Alors cela dit, incertitude et certitude, ce sont deux éléments qu'on peut aussi retrouver en démocratie. On se retrouve aussi parfois avec des dirigeants qui savent qu'ils ne vont pas se représenter. Alors on pourrait prendre l'exemple aux États-Unis. Par exemple, Barack Obama savait qu'au bout de deux mandats, il ne pourrait pas avoir un mandat supplémentaire. Et il y a deux façons de réagir, on peut dire, Céline Spector, par rapport à cette certitude là, c'est-à-dire soit on se dit finalement je n'ai plus rien à perdre donc j'y vais, je prends des décisions, ou au contraire je n'ai plus rien à gagner donc j'arrête de faire de la politique. Est-ce que ça n'est pas lié avant tout à une attitude personnelle davantage finalement qu'à cette question de certitude ou d'incertitude?
Alors je crois qu'un homme politique qui a atteint ce niveau, celui qui avait atteint Barack Obama, a toujours quelque chose à perdre ou à gagner, c'est-à-dire l'image qu'il peut avoir dans la postérité, la réputation qu'il lègue à l'histoire. Et ce qui a expliqué notamment l'accélération extraordinaire du temps politique à la fin du mandat de Barack Obama, au moment où il a su que Donald Trump était élu, et où il a pris toute une série de mesures décisives, généralement liées au climat d'ailleurs, enfin à l'écologie plutôt, c'est-à-dire des parcs naturels sanctuarisés, etc. Et je pense que c'était une action typiquement qui s'intéressait au temps long, qui s'inscrivait dans le temps long. Alors je crois que là aussi j'ai envie de rappeler une phrase de Rousseau quand il évoque le législateur, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de très fort sur ce que c'est qu'être un homme politique qui essaye de faire de grandes choses. Ce que nous dit Rousseau, c'est que pour être un bon législateur, il faudrait en quelque sorte être quelqu'un qui puisse travailler dans un siècle et jouir dans un autre. C'est-à-dire, finalement, en ce sens, il faut des dieux pour donner des lois aux hommes, effectivement. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont peu d'hommes politiques sont capables, en raison, comme vous le disiez, de cette pression du temps politique et médiatique.
En sont-ils capables? Peut-être pas. En ont-ils envie? Sans doute. Si on se réfère, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion d'écouter cet entretien, c'était il y a un an, au mois de mai 2016, dans la Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin avait invité François Hollande et il avait notamment parlé de son rapport au temps politique en insistant beaucoup sur le fait qu'il considérait que, comme président, il écrivait l'histoire, François Hartog, et qu'il avait aussi envie de laisser une trace dans l'histoire. Peut-être finalement aussi que quand on a fait le bilan du quinquennat Hollande, on l'a fait de manière trop présentiste et que on pourra évaluer ce qu'aura été véritablement son action politique d'ici quelques années.
C'est probable. Mais alors, évidemment, dans cette émission à laquelle vous faites allusion, on peut penser que Hollande pensait en effet à ce que serait la trace qu'il laisserait. Bon, donc c'était une émission conçue pour ceux qui l'écouteraient, alors au moment même où ou bien il aurait été réélu, ou bien déjà, il était clair qu'il ne serait pas réélu, je ne sais
pas. Oui, parce que sauf erreur de ma part, à l'époque, il n'avait pas encore dit qu'il renonçait à être candidat.
Bon, d'autre part, les présidents de la République, de la Ve République, ont fortement joué cette carte de celui qui dit l'histoire. Et Hollande l'a très fortement joué, cette carte-là. Alors on peut dire, oui, c'est très bien, c'est une manière d'intervenir, de créer de la, du lien social, de la, à travers la mémoire, la commémoration, très bien. On peut dire aussi qu'il a fait ça parce que, au fond, c'était un domaine où il pouvait agir sans grande difficulté. Et en plus, ça ne coûte rien, ou presque rien. Bon. Donc il y a aussi cet aspect, je dirais presque circonstanciel dans cette fonction. Mais fondamentalement, les présidents de la République sont là, et si vous prenez toute la série, vous les voyez qui disent l'histoire. Ils ne prétendent pas qu'ils font l'histoire, ou ils ne prétendent pas écrire l'histoire au sens professionnel du terme, mais ils ont cette fonction de dire. Et avec toute l'autorité de la parole présidentielle. Et ça, Hollande l'a joué très délibérément et très consciemment jusqu'au bout.
Cette fonction, Renaud Père, d'après vous, est-ce qu'ils ont suffisamment le temps pour la dire, voire pour aussi pour l'incarner? Et là, je pense à la durée du mandat. On avait un septennat autrefois. Aujourd'hui, enfin en tout cas s'agissant du dernier quinquennat, on a eu un... presque un mini quinquennat, puisqu'avec la campagne des primaires qui a commencé très tôt, on peut dire que le temps politique a été réduit. C'est presque un quinquennat qui a duré quasiment 4 ans. Est-ce qu'il faut repenser la durée du mandat politique, à commencer par celui du président de la République?
En l'occurrence, le dernier quinquennat a bien duré 5 ans, et pour une raison très simple, c'est que le président ne s'est pas représenté, et il a été en mesure, même si on a bien vu qu'il a été éclipsé effectivement par la campagne, il a été en mesure d'être président de la République et non pas candidat jusqu'au terme de son mandat.
Saurait-on vraiment dire quelle a été son action dans les derniers mois du quinquennat? Je suis pas sûr quand même. En tout cas, c'est pas parce que c'était pas dans les médias qu'il ne faisait rien, mais quelque chose qui était très, très visible.
Vous avez raison, mais en tout cas, il était président de la République. C'est-à-dire, contrairement à son prédécesseur qui était candidat dans les derniers mois de son mandat. Mais vous avez raison, il faudrait nuancer tout cela. Simplement, la vraie question, la question que vous posez est bien celle de la bonne durée du mandat. C'est très compliqué. Et on voit bien, une fois de plus, que le président actuel cherche à donner un autre tempo à ce quinquennat. Contrairement, une fois de plus, à ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour une raison très simple, c'est que le quinquennat, en calant complètement le mandat présidentiel sur le mandat législatif, a fait du président de la République un chef de majorité avant tout, et d'une certaine manière un super premier ministre. Et certains voient et regrettent effectivement le septennat, en appelaient même, rappelez-vous, c'était le cas d'Alain Juppé, un septennat non renouvelable, pour donner plus de temps et plus d'autorité au président de la République, étant entendu justement que temps et autorité iraient de pair. Et je crois qu'on voit dans l'action, dans la volonté, et en tout cas dans la manière, dans la symbolique mise en œuvre par le président Macron, la volonté de se démarquer quand même du temps simplement législatif, avec tous les effets pervers qui ont été pointés dès le début de cette émission. C'est-à-dire, à quel point va-t-il considérer précisément l'action du Parlement, en quoi va-t-il nier finalement le temps de la délibération, même si, je nuance, parce qu'il me semble que nous ne sommes pas dans une nouveauté, nous ne sommes pas face à une nouveauté quant à l'usage des ordonnances, dont on voit précisément un usage inflationniste depuis le début des années 2000 même.
Alors je vous rappelle la question que nous posons ce soir. Le politique réduit-il le temps de la politique? En compagnie de François Hartog, qui est historien, Renaud Père, qui dirige l'IEP de Lyon, l'Institut d'études politiques, et Céline Spector, qui est philosophe. Céline Spector, que nous dit la philosophie politique sur ce que pourrait être la bonne durée du mandat en politique?
Alors, je voudrais peut-être revenir, avant d'aborder la question philosophiquement, hein, si d'ailleurs c'est possible, sur les raisons pour lesquelles, finalement, le septennat avait été choisi dans notre tradition politique française. Ça s'est passé, disons, pour l'essentiel en 1875, donc au moment, disons, de la fondation de la Troisième République. Et il y avait alors à l'Assemblée nationale deux camps, l'un royaliste, hein, qui préconisait un mandat de 10 ans, et l'autre, plutôt républicain, qui préconisait un mandat de 5 ans. Et donc, MacMahon a décidé, en quelque sorte, de couper la poire en deux et de mettre, la durée du mandat à 7 ans. Et ça a été adopté à une voix près, hein, en même temps que la République. Donc voilà, il y a une certaine contingence de cette décision. Et bien sûr, on peut dire, qu'est-ce qui est réellement démocratique, 7 ans ou 5 ans? Je crois que c'est une fausse question. La raison pour laquelle on a voulu faire concorder le temps de l'exécutif et le temps du législatif, il faut bien s'en souvenir, c'est la question de la cohabitation. C'est-à-dire qu'en 1997, quand Lionel Jospin devient Premier ministre, il est favorable au quinquennat, alors que Jacques Chirac ne l'était pas, et il va dire finalement c'est la seule manière de donner une cohérence à l'action de l'État. Et donc c'est quand même un argument assez fort, avec l'argument qui a été présenté à l'époque, qui consistait à dire c'est plus républicain ou c'est plus démocratique, puisqu'on va demander plus souvent au peuple l'onction du suffrage universel. On a même dit c'est plus moderne, ce qui à mon avis est un argument spécieux pour le coup. Mais voilà, je voulais revenir là-dessus. La philosophie politique ne donne pas de bonne durée du mandat pour la simple et bonne raison, et ça Montesquieu l'a très bien vu, que la philosophie politique définit deux excès, disons, deux écueils entre lesquels l'action politique peut se situer. Ni trop, ni trop peu, mais elle ne pourra jamais nous dire précisément quel est le bon temps de l'action politique.
Peut-être que l'histoire peut nous le dire, François Hartog.
Non, je ne pense pas. Mais on peut ajouter aussi, avec ce chiffre de 7 ans, que 7, ce n'est pas n'importe quel chiffre. Donc c'est aussi un chiffre qui, symboliquement, a toute une portée, c'est un chiffre qui marque comme ça une complétude, une totalité. Bon, donc le choix de 7, c'est pas simplement la poire en deux, MacMahon, dans son palais, disant, bon, entre 10 et 5, je choisis 7.
Est-ce que 7 ans, en tout cas, c'est une durée pendant laquelle on peut faire davantage de choses que 5 ans? Ça peut paraître un petit peu absurde comme question, mais finalement, François Hartog.
Tout dépend de la personne qui exerce ce mandat pendant 7 ans et des conditions dans lesquelles cette personne exerce son mandat et du rapport qu'il entretient avec le Parlement. Bon. Et donc, je pense que l'idée de découpler législature et mandat présidentiel permettait en effet au président d'avoir une latitude plus grande, alors qu'aujourd'hui, oui, il est à la fois très puissant et très lié à sa majorité, comme ça a été dit. Il est le chef de la majorité, le vrai chef de la majorité, et une sorte de super premier ministre. D'ailleurs, si le président Macron, comme on nous l'annonce, va parler devant le Congrès la semaine prochaine, la veille du jour où son premier ministre fait son discours de politique générale, c'est quand même un signe un peu fort, d'une manière un peu forte, de lui dire, mon petit ami, l'essentiel aura été dit la veille.
Ah, je crois que si le premier ministre ne comprend pas le message, là, vraiment, ouais, c'est que c'est problématique. Je voudrais terminer la discussion en citant un auteur de la revue Esprit. Voici ce qu'il écrivait en 2011. Alors forcément, c'est un très court extrait. Hein. « Tout se passe dans l'action politique représentée, comme si le moment de l'annonce valait action même. La mise en œuvre, le suivi passent ensuite dans le domaine de l'administration. » Qui a écrit ces deux lignes? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui écrit ces deux phrases. Alors on verra bien ce qu'il en fait maintenant qu'il est au pouvoir. Mais est-ce que ça n'est pas aussi ça un des dangers de cette accélération du temps politique? C'est que le politique se laisse déposséder de la mise en œuvre des décisions par l'administration, par les hauts fonctionnaires, c'est l'inspecteur.
Ça a toujours été le cas, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'action politique sans administration. On vit dans une forme de rationalité bureaucratique, qu'on le veuille ou non. Il n'y a aucune action politique immédiate, sauf peut-être la déclaration de guerre.
L'administration est censée être au service du politique et pas l'inverse.
Non, bien sûr, mais elle peut le rester. Après, bon, il y a des questions de conflit de pouvoir au sein des ministères, comme on le sait, mais ce n'est pas ça ce qui est fondamental. D'ailleurs, Emmanuel Macron essaye de déjouer ça en faisant précisément des plus hauts postes, des postes politiques, plutôt que des postes administratifs, pour éviter cet écueil qui est bien connu du fait que l'action politique ne parvient pas à ses fins parce qu'elle se heurte à des résistances bureaucratiques. Mais je crois que, en fait, ce qui est essentiel ici, c'est de savoir le temps de l'annonce. Qu'est-ce que c'est le temps de l'annonce? Est-ce que c'est le temps de la vision politique? Ce qu'on veut pour l'Europe, par exemple? Et ça, à mon avis, c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait de mieux. Hein. Pour l'instant, il a inscrit à l'agenda politique ce qui était une priorité. Et je crois que c'est ça, être maître des horloges, c'est être maître d'un agenda politique où on donne les priorités. Et en ce sens, je crois qu'il a donné la priorité. L'Europe, c'est en effet la priorité. De ce point de vue-là, il gère l'agenda.
François Hartog, le temps de l'annonce, c'est déjà le temps de la décision. Est-ce que ça n'est pas parfois uniquement le temps de cette décision, enfin?
Le risque, c'est l'effet d'annonce, que nous avons largement connu. C'est-à-dire considérer que du jour où l'annonce a été faite, la décision a non seulement été prise, mais le problème est réglé. Nous vivons sous ce régime de l'annonce, de l'effet d'annonce, et qui ne se traduit finalement par rien, d'où les frustrations, d'où les ressentiments, d'où les mécontentements, en disant, vous croyez que vous avez réglé quelque chose, vous n'avez rien réglé du tout, mais il se trouve que l'homme politique ou la femme politique, le lendemain, est passé à autre chose et fait un autre effet d'annonce sur un autre problème pour une autre catégorie, et ainsi va la vie, jour après jour, dans l'agenda politique, dans un monde présentiste.
Il y a quand même un outil qui peut être intéressant à observer, Renaud Peyre, c'est le bilan annuel de l'application des lois que fait chaque année la Commission des lois. Il se trouve que là, c'est assez récent, puisque ça date du 20 juin dernier, et on peut lire notamment dans le compte rendu qui a été fait, donc c'était évidemment sous la précédente législature, les délais dans lesquels les mesures sont publiées sont parfois plus longs que les délais d'adoption des lois elles-mêmes. Ces délais se sont détériorés en 2015-2016, et tout en notant une inflation législative qui, elle, s'est aggravée en fin de législature. Renaud Peyre.
Oui, c'est toute une question, et notamment du lien entre les lois et les décrets d'application. On a connu des quinquennats où les décrets d'application ont tardé à venir alors que les lois étaient adoptées et effectivement il y avait une inflation législative. Mais simplement un mot quand même sur la phrase d'Emmanuel Macron. Il me semble qu'elle résume une grande partie de ce que nous avons cherché à débattre et à évoquer ce soir. Il y a la question du pouvoir de l'administration et du temps de l'administration, mais ça, effectivement, c'est une question fort ancienne. En quoi l'administration a un pouvoir et a sa propre temporalité? Mais il y a la question du moment, ou de ce qu'on pourrait appeler l'opportunité politique, pour pas précisément en rester au simple effet d'annonce. Or, il y a fort à parier que l'opportunité politique est en début de mandat, une fois de plus. Et donc, on aura encore plus de pouvoir et de capacité à faire appliquer les réformes par l'administration qu'on décidera tôt dans le mandat, avec une légitimité forte. Et en l'occurrence, il semble qu'il y a une forme de fenêtre d'opportunité si on mesure non seulement l'ampleur de la majorité République en marche et encore plus élargie à la droite une partie de la droite qui va se rallier au président Macron et à son premier ministre.
Vous voulez dire juste d'un mot, Renaud Peyre, qu'en début de mandat, on a moins de risques de se heurter à une forme d'hostilité de l'administration, et que quand on est en fin de mandat, il y a la possibilité d'une alternance, et que là, du coup, on va moins appliquer de manière sérieuse les décisions qui auraient été prises par les politiques?
Tout à fait. Et par ailleurs, on est plus en mesure de prendre, on est plus en capacité de prendre des mesures qui ne seraient pas populaires, et ce serait la logique de l'évitement du blâme, d'une certaine manière, qui est beaucoup plus difficile à éviter ce blâme en fin de mandat, lorsque l'échéance électorale et la campagne s'ouvrent de nouveau, comme on le verra probablement dans 4 ans et demi.
Ben voilà, on verra bien si cette logique est respectée ou pas au fil du quinquennat. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Céline Spector, François Hartog et Renaud Peyre. Merci également à nos camarades de France Bleu à Lyon, ainsi qu'à toute l'équipe du Grain. Fanny Richet, Céline Leclerc, Louise Fuseau, Cyril Baer, Antoine Tricot. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel, avec à la prise de son Jean Frédérix. On se retrouve demain à 18h20 avec la question suivante. Sexisme, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ce sera donc notre thème pendant 40 minutes demain. Dans un instant, vous allez retrouver Mathilde Serrel et Martin Kénéen pour Ping Pong, avec leur invité, le dramaturge Thomas Ostermeyer, metteur en scène. Il met en scène Richard III en ce moment, et c'est à Paris. France Culture, il est pile 19h.